franceinter.fr.
Bonjour Amélie Perrier.
Bonjour Marc, bonjour à tous.
Un espoir et beaucoup de mystères ce matin pour de nombreux malades dans le monde.
Et c'est d'abord le Figaro qui raconte l'optimisme lors de l'ouverture de la conférence internationale de l'IAS hier soir à Vancouver, l'un des grands rendez-vous annuels des spécialistes du sida. Et ce titre en page 7, sida, fin de l'épidémie espérée en 2030. Une experte américaine nous explique que nous avons désormais les outils de prévention qui, s'ils sont mis en place, permettront de voir vivre une génération sans sida. Et si l'optimisme brillait autant hier soir à Vancouver, c'est aussi en raison de plusieurs cas recensés de patients atteints par le VIH, des patients traités qui ne sont quasiment plus contaminants. Optimisme surtout, enfin, en raison d'un cas unique, mais scientifiquement passionnant, lit-on dans le quotidien, d'une jeune femme française, née séropositive, qui ne prend plus de traitement depuis 12 ans, après avoir passé les 6 premières années de sa vie sous antirétroviraux. Le Figaro cite le professeur Christine Rouziou, virologue à l'hôpital Necker à Paris. Cela renforce l'idée très importante pour les pays du Sud que soigner tôt peut avoir un bénéfice important sur l'avenir des patients. Libération aussi consacre une large place ce matin à ce cas exceptionnel. Le professeur Jean-François Delfrécy, directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, rappelle dans les colonnes du journal qu'en 2013, il y avait eu la présentation de ce que l'on avait appelé le bébé du Mississippi. Une histoire apparemment similaire, mais l'année dernière, on avait appris que le virus chez cet enfant se remettait à se répliquer. À présent donc, cette jeune femme française est le seul cas connu. Alors comment peut-on expliquer cette rémission record de plus de 12 ans? De fait, lit-on dans Libé, on ne l'explique pas. On pouvait penser qu'il y avait des marques génétiques particulières chez cette jeune fille, précise le docteur Aziesez Siron, virologue à l'Institut Pasteur. Finalement, non. On pouvait ensuite imaginer qu'elle avait été infectée par un virus moins pathogène. Il n'en est rien. Beaucoup de mystères donc, mais de l'espoir aussi, car d'autres cas, moins exceptionnels mais tout de même remarquables, sont sous surveillance dans l'Hexagone. En France, il y a 20 patients de ce type, nous apprend Libération, regroupés dans ce que l'on appelle la cohorte Visconti. Tous ont débuté un traitement anti-VIH immédiatement, après leur primo-infection et après le diagnostic. Puis l'ont poursuivi pendant 3 ans en moyenne, avant de l'arrêter. Depuis cet arrêt, ces patients ont une charge virale qui reste indétectable, et cela depuis plus de 8 ans en moyenne. Une histoire différente de la jeune fille, qui elle a été contaminée dès la naissance, mais ses parcours mettent en exergue deux points, résume Libération. Plus le traitement intervient précocement, plus le système immunitaire se défend, au point donc de contrôler parfois l'infection. Autre élément plus troublant, pourquoi cela reste-t-il si mystérieux? Le professeur Delfrécy l'affirme, lorsqu'on aura compris pourquoi des gens résistent et pas d'autres, alors on aura fait un pas décisif sur la voie du vaccin. Et l'éradication du sida sur la planète ne sera vraiment effective qu'avec la mise au point d'un vaccin. Et dans l'édito de Libération, David Carzon ajoute « Pour que la science parvienne au graal du vaccin, tout en proposant un traitement à chacun, on estime qu'il faudra mettre 30 milliards d'euros par an. Nous sommes prévenus. »
L'argent nerf de la guerre donc contre les virus, l'argent qui pourtant manque aujourd'hui dans le secteur de la santé.
C'est l'éditorial de Jean-Paul Pierrot dans l'Humanité. Il écrit « 3 millions de Grecs se sont trouvés exclus du système de santé à la suite de la perte de leur emploi. On sait l'influence du marasme économique sur la santé des hommes et des femmes. La pénurie de médicaments pour traiter les pathologies les plus sérieuses, les reports d'opérations et le renoncement à se soigner faute de pouvoir payer ont pris des proportions dramatiques. On assiste alors à un recul de civilisation, à un terrible paradoxe d'une société où les progrès scientifiques et technologiques ont fait franchir des pas de géant à la médecine et où des services d'urgence sont surchargés, où le manque de personnel se fait durement sentir, des lits sont supprimés. Ainsi le journal de Gauche a interrogé Yannick Sobaniak, CGT Santé, qui explique les conséquences du renoncement aux soins des populations dans le département du Nord. C'est pour ça que le nombre de cancers augmente, dit le syndicaliste. Quand les patients arrivent aux urgences, on découvre des situations sanitaires et sociales catastrophiques.
Des conséquences catastrophiques et onéreuses. Le tabac est également dans la ligne de mire ce matin de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui veut lancer, on le sait, malgré l'opposition des buralistes et de l'industrie très puissante du tabac, des paquets de cigarettes être neutre.
Et oui, dans Les Échos, ces propos de la ministre. Le marketing est une arme redoutable, dit-elle. Des couleurs vives, des locaux design, des formes glamour. Le paquet de cigarettes a parfois des allures d'accessoires de mode, accuse Marisol Touraine. Le journal économique rappelle que le tabac tue 6 millions de personnes par an dans le monde. Et ce chiffre pourrait grimper à 8 millions en 2030, si rien n'est fait pour enrayer la hausse. En Europe, où 28% de la population fume, on enregistre 700 000 décès liés au tabac chaque année. Et toujours dans Les Échos, on cite l'exemple de l'Australie, pays pionnier du paquet neutre, où la réaction des industriels a été violente. « Voulez-vous réellement vivre dans un état nounou » ont-ils dénoncé dans une campagne d'affichage. Mais la standardisation imposée aux paquets de cigarettes depuis 2012 semble avoir été efficace, affirme l'article. La prévalence du tabagisme n'a jamais été aussi basse en Australie, se félicite le représentant du ministère de la Santé australien invité hier à Paris. Et puis réparer les vivants, ce matin, c'est aussi réparer l'humanité et son patrimoine. Ainsi, le Figaro nous apprend dans ses pages culture que quasiment tous les mausolées de Tombouctou, détruits par les djihadistes au Mali en 2012, ont été ou sont sur le point d'être reconstruits. Pour la première fois, lit-on sous la plume de Valérie Sasportas, une force de maintien de la paix de l'ONU a intégré la dimension de protection du patrimoine culturel. Irina Bokova, la directrice générale de l'UNESCO, s'est rendue sur place le week-end dernier, visite discrète, pour saluer le travail des maçons locaux. Et elle l'affirme dans les colonnes du journal, la culture finit toujours par reprendre ses droits malgré l'obscurantisme, la violence, la haine. Nous sommes convaincus que la culture aide à restaurer le sentiment de dignité, de cohésion sociale et de confiance en l'avenir. Quand on vous disait qu'il y avait de l'espoir ce matin.
Oui, ça fait du bien parfois. Merci beaucoup, c'était la revue de presse d'Amélie Perrier.